Interview.
2 jours.
Donc là, je suis en compagnie de Margot, on est à Glandage. Margot est maintenant agricultrice, fait du maraîchage, de l'élevage, de la laine, un petit élevage de volailles, enfin une ferme très diversifiée. Donc dans le cadre, donc il y a quelques années, dans le cadre de tes études, tes études d'ingénieur agronome, tu as donc étudié plus ou moins l'histoire de la Bolivie, la pomme de terre. Donc aujourd'hui, moi j'aurais souhaité qu'on discute un peu de la situation en Bolivie, qu'est-ce qu'il en était avant, alors à quel point de départ, c'est peu importe, et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, mais sous l'angle de la paysannerie, quoi. Quelle évolution au fil du temps a pu générer
En fait, du coup, en Bolivie, j'y étais pour ma thèse en géographie, où justement, ce que j'ai étudié, c'est l'histoire d'une société agricole sur une partie un peu reculée des Andes orientales, pour comprendre comment cette société a évolué, comment cette société paysanne a évolué, comment les pratiques agricoles ont évolué jusqu'à aujourd'hui. Et après, j'y suis restée quelques années de plus où j'ai travaillé comme chercheuse indépendante, justement, pour mieux comprendre ces questions et surtout les enjeux actuels. Alors là où j'étais, donc, ça se situe au nord-est du bassin de la vallée de Cochabamba, donc c'est au centre du pays, c'est sur le versant oriental des Andes, donc vraiment à la limite entre la partie andine et le piémont amazonien. Au-dessus de 4000 mètres d'altitude, en Bolivie, en fait, on est toujours dans le monde de la pomme de terre, éventuellement en association avec la quinoa, mais c'est la pomme de terre qui est présente dans les assiettes, dans les systèmes de culture, dans tout l'environnement. Et donc là, moi, où je travaillais, c'est une région justement qui est très marquée, où la pomme de terre, elle est omniprésente dans l'histoire. Cette région-là, elle ne va pas refléter l'ensemble de l'histoire de la paysannerie bolivienne sur la pomme de terre, mais je pense qu'elle est assez emblématique quand même des grands changements qui ont eu lieu. Donc c'est une région qui a été conquise assez tardivement parce qu'elle est très reculée. Donc voilà, faut compter aujourd'hui avec les systèmes de transport actuels, il faut compter 14 à 15 heures de camions pour se rendre dans les villages depuis la ville de Cochabamba. Et en gros, il y a une flotte de camions, c'est des vieux camions Volvo qui ont été retapés avec une carlingue en bois à l'arrière et on charge les marchandises, les bêtes, les gens. Et tout ça s'achemine dans la montagne. Ils partent, il y a un trajet par semaine en fait. D'accord. Les camions partent de la ville le lundi et ils redescendent le vendredi soir. Au 19e siècle, en fait, toute cette zone-là, elle était sous l'emprise d'immenses domaines propriétaires terriens, ce qu'on appelle les haciendas. Ouais. Celui que j'étudiais, il faisait 50 000 hectares à peu près, pour donner une idée.
C'est énorme.
C'est énorme. Alors en fait, avec un centre qui se situe vers 3500 mètres d'altitude, et puis il y avait à peu près, il y a 25 000 hectares qui sont dans le piémont amazonien, des zones à peine exploitées. Et les sociétés qui vivaient là-bas avant l'arrivée des Espagnols, c'était des bergers. Essentiellement des bergers de camélidés, de lamas, qui petit à petit ont intégré dans leurs troupeaux les moutons.
Les Espagnols dont tu parles, on a reculé dans le temps. C'est les conquistadors en fait,
ce qu'on appelle les conquistadors.
Le 16e siècle quoi.
Ouais. Et les Indiens en fait très rapidement, ils ont incorporé les moutons dans leur système d'élevage. Pendant longtemps, ils ont continué à pratiquer leur type d'agriculture avec une domination espagnole en fait qui leur imposait pas de système de culture particulier, mais qui leur prélevait un impôt à la fois en personne, donc il fallait donner des jours de travail à la couronne espagnole pour travailler dans les mines.
Une forme d'esclavage, quoi.
On peut appeler ça comme ça. Et puis, en produits, il fallait fournir des produits à la couronne espagnole. Alors, dans cette hacienda, à la fin du 19e siècle, il y avait donc un propriétaire terrien d'origine espagnole, mais qui habitait pas sur place, qui habitait en ville, mais qui avait sur place une petite équipe de... comment on appelle ça, des capatas
des hommes de main, quoi.
Ouais, voilà, des hommes de main qui devaient organiser qui organisaient la vie sur l'hacienda. Et la population, les gens, les paysans, donc c'était pour une grande partie des bergers qui n'étaient pas sédentaires et qui venaient depuis l'altiplano. Ils faisaient des grandes transhumances. Et en fait, c'était leur quartier de saison sèche, toute cette grande zone. Et donc, eux, le tribut, l'impôt qu'ils devaient fournir à l'hacienda, c'était sous forme de laine, de peau d'agneau et puis de mouton.
Donc ça, pendant des siècles, en fait.
Pendant des siècles, ça a été comme ça. Et ils fournissaient aussi ce qu'on appelle le guano. En fait, c'est les déjections de moutons et de lamas,
ouais,
qui permettaient de fertiliser les terres. Et après, il y avait aussi toute une population qui était sédentarisée, là, au niveau de l'hacienda, en fait, qui occupait toutes les terres qui se situaient entre 3003 et 4000 mètres d'altitude. Ça, c'était une population qui était sédentarisée, alors qui s'est sédentarisée progressivement, mais en tout cas, à la fin du 19e siècle, elle a été complètement sédentarisée. Et ces gens-là, eux, ils étaient contrôlés intégralement parce qu'eux, ils devaient fournir du travail pour l'hacienda. Et notamment, ils mettaient en œuvre les cultures de l'hacienda.
Donc, eux, ils avaient abandonné l'élevage.
Il leur restait un petit élevage familial, mais qui faisait plus de grande transhumance. Donc, c'était des troupeaux beaucoup plus petits aussi. Et eux, ils travaillaient sur les champs de l'hacienda, qui, petit à petit, a commencé à développer la culture de pommes de terre, en fait, à destination du marché urbain de Cochabamba, cette ville qui commençait à grossir petit à petit. Et du coup, entre la fin du 19e siècle et 1950, on peut dire que la culture de la pomme de terre, elle a pris de plus en plus d'importance dans l'hacienda. Et donc, elle était réalisée par ces travailleurs indiens de l'hacienda, qui du coup, cultivaient les champs toute l'année, mais en respectant, en fait, encore le système traditionnel de rotation. Il faut se dire qu'on est là-bas, donc on est forcément à plus de 3000 mètres d'altitude. Donc la saison de végétation, elle est courte. À 4000 mètres, il y a des gelées à peu près 200 nuits par an,
d'accord,
minimum. Donc à 3000 mètres, il y en a un peu moins. Mais ça veut dire aussi qu'on ne peut pas faire deux saisons de culture. On ne peut pas faire grand-chose d'autre que de la pomme de terre. Et les terres aussi, elles mettent longtemps à se régénérer, à retrouver leur potentiel de fertilité.
Oui, mais oui, la pomme de terre, c'est quand même une culture exigeante qui épuise rapidement les sols si on ne fait que ça, quoi.
Et oui, ouais. Et du coup, comme les troupeaux, il y a tout d'immenses troupeaux de lamas et de moutons qu'il faut nourrir. En fait, il faut quand même reconstituer aussi une flore herbacée qui permet de nourrir les troupeaux. Donc, en fait, sur chaque... on appelle ça des communautés là-bas, mais ça correspond un peu à des villages qui font une centaine d'habitants. Chaque village a un territoire autour de lui qui est... alors, selon les très hautes terres d'altitude, c'est des terres qui sont réservées à la pâture des troupeaux. Et puis ensuite, toute cette frange entre 3000 et 4000 mètres d'altitude, elle est séparée en grands quartiers qu'on appelle des Ainoras. Selon les lieux, ça a des noms différents, mais là-bas, ça s'appelait comme ça.
Ça pourrait se traduire par quoi, ici?
Une sole de culture.
D'accord. Oui.
Et en fait, chaque année, on va mettre en culture une de ces sols. Alors, entre 15 et 20 sur le terroir d'un village. Et chaque année, on met en culture une de ces sols et le reste est en jachère pâturée. Et donc, est pâturée par les troupeaux pendant toute l'année.
Donc, ce système-là, il présente l'avantage de faire des très très longues rotations, en fait.
Voilà.
Parce que si c'est sur 10 ou 15 ans, ça fait des rotations sur 15 ans, quoi. Sur 10 ou 15 ans, quoi.
C'est ça, on cultive une année, et après, il y a 15 ans de jachère.
Voilà. Pâturée.
Pâturée.
Donc fumée.
Voilà.
Entretenue, et donc avec une diversité qui peut se régénérer parce qu'on lui fout la paix. Une prairie pâturée, enfin une jachère pâturée, se régénère.
Et oui, ouais.
Elle-même aussi, quoi.
Et du coup, voilà, il y a cette idée de régénération, et après... On pense que dans ces rotations aussi longues, il y a aussi l'idée de casser les cycles des parasites et notamment des nématodes,
oui,
qui ont des cycles très longs. Et donc là, 15 ans, c'est un temps qui permet d'éliminer les nématodes du sol. Et alors, dans ces Ainoras, en fait, les gens n'ont pas des parcelles qui leur sont attribuées individuellement. C'est redéfini chaque année en fonction des personnes qui sont présentes dans le village. On repartage toute la sole entre tous les habitants. Donc, du temps de l'hacienda, en fait, on repartageait. L'hacienda se réservait un gros quartier. Et puis après, tous les habitants, ils avaient leur parcelle qui leur était attribuée. Dans certains cas, voilà, soit les gens gardent la mémoire de leur parcelle familiale, soit c'est redistribué, mais en tout cas, c'est un truc qui est décidé collectivement.
D'accord.
Et ensuite, on décide collectivement d'une date de mise en culture. Donc à cette date-là, on attaque les labours, et puis on décide collectivement d'une date de fin de culture. Et le jour décidé pour la fin de la culture, toutes les parcelles sont ouvertes à la pâture. Donc ça veut dire que c'est aussi un système qui fonctionne sans barrière, sans aucune clôture, quoi. Parce que c'est décidé collectivement. Et voilà, alors, cette frange cultivée, donc, avec l'hacienda, elle a commencé à prendre une certaine importance. Et dans les années 1950, il y a eu une révolution en Bolivie qui a amené la réforme agraire, qui, du coup, a supprimé le système des haciendas. Donc, les paysans, ils sont redevenus propriétaires de leurs terres.
Oui.
En fait, C'est plutôt la communauté, voilà, maître de leur terre. C'est la communauté indienne qui a la propriété. Voilà, c'est les communautés indiennes qui ont récupéré la propriété des terres et qui ont pu du coup se réorganiser. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elles se sont réorganisées sur la base de cette impulsion productive qui avait été lancée par la hacienda. Et qu'en fait, elles ont confirmé cette espèce de vocation, entre guillemets, productive de pommes de terre. Ouais. À destination du marché de Cochabamba. Et donc voilà, en fait, la pomme de terre est vraiment devenue le pivot de l'économie locale. Et les éleveurs qui étaient dans les franges plus hautes, qui occupaient vraiment les hauts plateaux, les hauts sommets, eux, petit à petit aussi, ils se sont mis à mettre en culture les terres les plus potentiellement cultivables. Mmh. Ils se sont mis à les cultiver aussi, ouais, en pommes de terre.
Et donc ce système communautaire, il fonctionnait toujours après cette révolution ?
Il fonctionnait toujours.
Ça fonctionnait toujours de la même manière, quoi.
Et de la même manière, voilà. Sauf que voilà, en fait, ils ont mis plus de terres en culture chaque année, chacun, que dans le passé, quoi. Petit à petit, la taille des troupeaux a commencé à diminuer, et le temps alloué à la culture de la pomme de terre, il a augmenté, quoi.
D'accord. Le temps et la surface, quoi.
Et le temps et la surface. Parce que la surface cultivée, elle est directement liée au temps de travail qu'on y met, vu que c'est un système qui est intégralement manuel. Les labours, ils se font à la pioche, ou dans le meilleur des cas, pour les gens les plus équipés, en fait, ils se font avec une paire de bœufs qui tirent un arrière.
D'accord.
Donc c'est... voilà, il n'y a même pas de soc aux charrues, quoi. C'est vraiment une pièce de bois qui fend la terre. Et tout l'argent, en fait, dans cette intégration commerciale, petit à petit, l'argent des paysans, ils l'ont réinvesti pas dans du matériel agricole, mais dans des outils de transport. Alors, jusque dans les années 60, les pommes de terre étaient acheminées à la ville, à pied, avec des caravanes de lama, donc qui chargent à peu près 35 à 50 kilos chacun, donc dans des sacs tissés, hop, c'était 3, 4, 5 jours de marche pour descendre à Cochabamba livrer les pommes de terre. Et alors à partir des années 50-60, petit à petit, tout l'argent gagné par cette commercialisation, les paysans l'ont réinvesti dans la construction, enfin dans la construction de chemins, de pistes carrossables, qu'ils ont d'abord, elles ont été faites à la pioche. C'était des armées de paysans qui faisaient des routes parce que c'était ça l'enjeu, c'était le truc fondamental. La pomme de terre, c'est lourd et il fallait pouvoir l'acheminer. Et ils sont mis à acheter des petits camions qui faisaient le transport. Et du coup, ces petits camions rendaient les lamas obsolètes, parce que les lamas, c'est avant tout pour le transport qu'ils sont utilisés. Donc, on a commencé à sabrer un peu dans les élevages de camélidés.
Donc, l'élevage de lamas a diminué, quoi.
L'élevage de lamas a énormément diminué. En fait, il est resté présent dans les zones les plus reculées, les plus hautes, où il faut quand même une journée de marche pour apporter la pomme de terre au point de la route.
D'accord.
Et on voit maintenant des fils de sacs de pommes de terre qui sont alignés sur les bords des pistes et qui attendent d'être chargés dans les camions. L'élevage de moutons, par contre, il a perduré parce que le mouton, c'est la source de fertilité avec le guano, la déjection séchée. Donc, jusque récemment, les paysans sont restés éleveurs de moutons et cultivateurs quand même, ce qui les obligeait à garder suffisamment de surface en jachère pour continuer à élever les brebis. Sinon, ça ne marche pas. Donc, ça limitait aussi la surface cultivée en pommes de terre, de façon à garder l'équilibre avec l'élevage. Et puis, plus récemment, en fait, dans la vallée de Cochabamba, sont installées des batteries de poulets industriels. Et là, les éleveurs, les paysans des hautes terres, donc de là où je travaillais, de la cordillère, ça s'appelle la cordillère d'Ayopaya, là où j'étais, ils se sont mis à importer de la fertilité en achetant justement les fientes de les déjections de ces élevages en batterie qui remontaient en camion jusque dans la cordillère et ça leur permettait en fait de fertiliser plus de champs et du coup
de s'agrandir,
de cultiver plus de pommes de terre et d'avoir moins besoin du mouton pour la pomme de terre. Donc de pouvoir petit à petit supprimer des troupeaux et gagner sur l'espace cultivé en pommes de terre. Ouais. Alors, au bout d'un moment, ce système-là, il fait...
Ils travaillent toujours à la main, là ?
Et là, ils travaillaient toujours à la main. Alors, dans certains coins...
Et du coup, en notion de surface, qu'est-ce que, pour un paysan moyen, la surface, c'était quelle quantité, quelle surface ?
On peut faire un hectare à peu près, un hectare de pommes de terre à la main.
Donc, avant qu'il y ait les élevages en batterie qui s'installent en bas, on peut supposer que les paysans en haut avaient moins d'un hectare ?
Voilà, ils faisaient entre un demi et un hectare.
D'accord. Et après ? Une fois qu'ils importaient, donc ils sont mis à importer cette matière fertilisante issue des élevages.
Et bien alors là, c'est là où, en fait, en termes de main-d'œuvre, on peut de toute façon, à la pioche, difficilement aller au-delà d'un hectare.
Oui.
Donc les gens qui sont passés... En fait, il faut se dire que ce n'est pas complètement homogène sur toute la cordillère. Qu'il y a eu les parties les plus proches de la ville, c'est elles qui ont été le plus touchées, le plus rapidement. Et effectivement, il y a tout un ensemble où là, ils se sont mis, plutôt que les autres, à importer de la fertilité, à diminuer leurs troupeaux de brebis. Et ils ont même fait venir des tracteurs quelques années d'affilée pour labourer des champs. Ils sont plutôt équipés aussi en bœufs pour la traction. Voilà, eux, ils arrivent facilement à cultiver 2 hectares par personne. Voire même, ils importent de la main-d'œuvre, en fait, des vallées.
D'accord.
La vallée de Cochabamba. Il y a tout un réseau familial, social, qui fait qu'ils font venir des gens, des parents, des parents éloignés, qui viennent faire les labours avec eux, et ce qui permet d'arriver à 2 hectares et demi par personne.
D'accord. Donc là, on est dans l'amorce de l'abandon du travail communautaire que tu expliquais tout à l'heure, alors.
Et ben voilà, à un moment, ça tient plus.
C'est en train de basculer, quoi.
Voilà, quand on peut plus, en fait, quand on commence à lorgner la parcelle qui est encore en jachère, parce qu'on aimerait bien y mettre de la pomme de terre, au bout d'un moment, ce qui est arrivé dans ces zones-là, c'est qu'ils sont mis à enclore, en fait, des parcelles au sein des zones en jachère, en disant, bon ben là, en fait, moi j'ai besoin de cette terre pour faire 1 an de pomme de terre en plus.
Donc on fait barrière à la pratique d'élevage.
Voilà.
Du voisin avec qui on travaillait jusqu'alors, quoi.
Et du coup, on enclôt. Mmh. Et donc, petit à petit, en fait, tout le système traditionnel des aïnocras, des rotations, moi j'appelais ça des rotations collectives,
oui.
Il éclate. Et on arrive à... Il disparaît complètement. On arrive à un morcellement, en fait, de l'espace avec des zones de culture où chacun finit par gérer ses rotations comme bon lui semble.
Ouais. Et là, on est toujours dans les années 50-60 ?
Là, c'est plutôt 70-80,
d'accord.
90.
Ouais.
Voilà, on se rapproche d'aujourd'hui. En fait, le système, il a
vraiment... Dans les années 70, ça a commencé à évoluer vers ce type de pratique, quoi.
Voilà.
Enfin, une nouvelle pratique.
Et l'éclatement, il a eu lieu dans les années 90, la destruction du système collectif. Pour cette zone la plus proche, c'est dans les années 90. Moi, où j'étais, là où c'était beaucoup plus lointain, au début des années 2000, c'était encore très présent, le système de rotation collective.
D'accord.
Par contre, aujourd'hui, je pense que c'est en train d'exploser. Ouais. Quoi.
On peut supposer que soit c'est en train, soit ça a déjà
explosé. Soit ça a déjà eu lieu. Et puis après, voilà, donc dans ces zones-là, le travail le plus dur, la partie la plus dure du travail, c'est le labour pour retourner une prairie qui a 15 ans.
Ben oui.
Donc c'est quand même un sacré boulot. En fait, ce qu'ils faisaient jusque-là, c'était qu'à la pioche, ils décapaient la couche de sol sur 10 cm à peine. Ensuite, on rassemblait en tas toutes ces mottes qui étaient formées avec d'un côté une herbe. Donc c'est une herbe assez siliceuse, assez rase, très fibreuse. Puis de l'autre côté de la motte, il y a tout le système racinaire.
C'est des graminées.
C'est des graminées, ouais. Des fétuques.
Ça tient bien à la terre, quoi.
Voilà, ça faisait des mottes hyper compactes. On les rassemble et ils faisaient des espèces de fours qui font 1,50 m de haut sur 1 mètre de diamètre.
D'accord.
Comme des grosses pyramides.
Oui.
Réparties sur toute la surface du futur champ. Et on lance une combustion à feu couvert de ces fours. Et en fait, cette pratique-là, c'est ce qu'on appelle l'éco-buage, mais l'éco-buage au sens vrai.
Oui.
En fait, il va brûler très progressivement toute la matière végétale et cuire. C'est une combustion incomplète qui cuit partiellement les argiles du sol et qui permet d'augmenter légèrement le pH, parce que sont des terres très acides.
D'accord.
Donc voilà, le pH, il augmente un peu. La matière végétale est décomposée. Donc la prairie, du coup, a été
détruite.
Ouais. Et cette combustion incomplète, elle libère les éléments fertilisants qui sont maintenus prisonniers dans le sol, parce qu'on est quand même sur des terres hyper froides où, en fait, il y a une certaine... comment est-ce qu'on peut dire ? Il y a un blocage des processus physico-chimiques. Enfin, il y a un blocage des processus chimiques.
Qui fait que les éléments sont pas facilement disponibles pour les plantes que l'on qu'on implanterait directement dessus, quoi.
Ouais. Et du coup, voilà, cette...
Là, le fait de faire ça, ça libère les éléments fertilisants, ça les rend disponibles à la future culture, alors.
Voilà, et on fait ça, donc on décape en fin de saison sèche, en fin de saison des pluies, pardon, en avril, mais on cuit en juillet-août... au cœur de la saison sèche.
Ouais.
En septembre, du coup, on rééparpille tout ce qui a été... tous ces résidus de la cuisson. Mmh. Et puis, en octobre, on forme les buttes et on sème en octobre les patates sur un système de buttes.
D'accord. Là, on est en octobre, les saisons sont inversées là-bas, non ?
Voilà, ouais, c'est un peu ça. Et donc, il faut finir de semer avant le début de la saison des pluies qui commence en novembre.
Et la récolte intervient ensuite
Avril-mai de l'année suivante. Ah c'est oui, des cycles
quand,
longs. Hein.
Quand nous, ici, on implante la patate, là-bas, ils la ramassent. Ils sont en train de la ramasser là-bas. Là.
Ouais, voilà, on est complètement bientôt, à l'inverse.
Quoi. Ils sont... D'accord.
Et du coup, la patate, elle est calée comme ça sur... c'est des... Donc, jusque-là, jusque dans les années 80, c'est ce qu'on verra après. Dans toute la cordillère et partout en Bolivie, c'était des pommes de terre de variété ancienne, qu'on appelle les natives. Mmh. Essentiellement à cycle très
J'ai
long.
J'ai lu qu'il y avait... Il y a énormément, en fait, à l'origine, il y avait environ, j'ai lu ça, la patate serait cultivée depuis 8 ou 10 000 ans là-bas.
Ouais.
Et il existait apparemment 200 variétés sauvages ouais, à l'origine qui, de par multiplication ensuite, par ce système de culture et surtout de culture vivrière, aurait créé plusieurs milliers, enfin un nombre incalculable de variétés.
Oui, voilà, on disait en Bolivie, comme ça, la petite histoire disait qu'on pouvait manger une variété différente chaque jour de l'année. Et c'est vrai que voilà, c'était des variétés qui étaient hyper adaptées au terroir, à des cycles de culture longs, résistantes au froid, résistantes à la sécheresse aussi. Enfin, voilà, elles avaient différentes formes de résistance. Il y avait même certaines variétés qui pouvaient être cultivées très très haut en altitude, à plus de 4000 mètres, qui résistaient au gel et qui ensuite pouvaient pas être consommées telles quelles parce qu'elles étaient considérées amères, enfin, on les appelle amères, et elles devaient subir un processus de déshydratation et de lavage pour pouvoir être consommées, quoi. On en faisait une espèce de pomme de terre lyophilisée, la lyophilisation artisanale.
Ouais.
Et ça, c'était conservé. En plus, c'était un système de conservation qui permet de conserver les pommes de terre 10 ans et de les consommer tout au long de ces 10 ans. Donc, ça faisait aussi des stocks de nourriture pour les gens. Quoi.
Un peu comme les haricots, quoi.
Ouais, comme les haricots. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut bien avoir des stocks, quoi.
Et ça, dans les années 80, ça a commencé à bouger.
Ben voilà, ça fait partie
de ces variétés.
Alors, là où j'étais, ça a perduré, justement, dans les zones plus reculées. Mais sur l'histoire des variétés, voilà, les choses changent, justement. Les années 80, c'est la période du grand changement. Ce que je voulais dire de plus, c'est vu que la partie la plus dure du travail, c'est la destruction de la prairie. Dans le passé, on faisait un an de culture de pommes de terre et ensuite, on faisait une jachère. Et à partir des années 80, les gens sont mis à faire des cultures de pommes de terre successives sur la même parcelle pour justement pouvoir augmenter la surface cultivée en fait en s'affranchissant du dur labeur du retournement de la prairie. Et donc, dans certaines communautés, dans certains villages, on a vu petit à petit se mettre en place des rotations où il y avait pommes de terre sur pommes de terre sur pommes de terre. 2 ans, puis 3 ans de suite, puis 4 ans de suite, oui. Puis 7 ans de suite, avec des jachères de plus en plus courtes par ailleurs. Et nous, quand on y était justement au début des années 2000, a commencé à surgir problèmes sanitaires complètement fous, oui. En fait, des invasions de parasites, de maladies. Donc voilà, c'est pour dire à quel point en fait le système, quand il implose, en quelques années, ça a créé aussi des problèmes d'une ampleur qui était impossible.
Ben, le système fonctionnait et derrière le fait de l'éclater, il y a une désorganisation globale, quoi.
Voilà, on arrive au chaos, enfin, c'est une forme de chaos.
Et en agriculture, quand on désorganise l'ordre des choses, on crée de la calamité, quoi.
Et c'est ça.
Ça, c'est, on n'en a pas tous conscience parce qu'on n'est pas tous jardiniers, cultivateurs, agriculteurs. Ou on a de moins en moins les pieds et les mains dans la terre, mais c'est pourtant une évidence. Quoi.
Ben ouais. Et là, voilà, du coup, on voyait arriver, en fait, ça arrivait progressivement par vagues. D'abord les communautés les plus proches de la ville, et puis petit à petit, on se dit que ça va toucher les autres. Quoi.
D'où incidence sur les variétés, alors.
Voilà. Alors, sur les variétés, donc, comme on disait, jusque dans les années 80, c'était uniquement des variétés anciennes qui étaient cultivées. Et puis...
Variétés anciennes, c'est un peu... Enfin, moi, j'aurais envie de te reprendre, ce serait plutôt des variétés locales, quoi. Enfin...
Voilà.
Variétés qui étaient endémiques, quoi. Qui... Enfin, même si elles ont été créées par les Boliviens eux-mêmes, par les Indiens, c'est ce qu'on qualifie aujourd'hui de variétés anciennes, c'était les variétés de tous les jours et...
Oui, mais oui, en fait.
Avant ça, quoi.
C'est ce qu'on a. Du coup, là-bas, ils disent plus variété native.
Variété native, voilà. Ouais.
Ça, c'est le terme.
C'est joli, ça, comme terme. Ça, je vais réutiliser plus souvent, celui-là.
Il est pas mal. Alors voilà, dans les années 80, ce qui se passe, c'est que d'une part, il y a la population urbaine en Bolivie qui explose pour différentes raisons. L'exode rural en Bolivie se fait dans les années 60-80. Il y a tout le système de la culture de la coca pour la cocaïne dans les basses terres. En fait, c'est un grand moment de bouleversement social. Et les gens commencent à... La population bolivienne commence à devenir urbaine. Donc, il faut l'alimenter. Et petit à petit, en fait... Alors, le discours officiel, c'est que la production de la cordillère ne suffisait plus à nourrir la population urbaine, donc il a fallu déplacer les bassins de production. L'idée, c'était peut-être de... C'était probablement pas que ça, mais en tout cas, les bassins de production de la pomme de terre, ils se déplacent vers les basses terres. Et notamment, ils arrivent petit à petit jusque dans le piémont amazonien, en fait, qui a été l'objet d'une colonisation agricole hyper rapide, hyper intense, à partir des années 60, et qui a été basée sur la construction d'axes routiers. Donc c'était des régions plates, chaudes, reliées à la ville par des axes routiers, parce que c'était la première chose qu'on faisait pour la colonisation, on construisait une route, et puis après, de là, on allait coloniser. Et puis, du coup, dans les basses terres, c'est aussi d'autres populations qui étaient déjà équipées en engins agricoles. Donc c'est aussi une colonisation qui se fait sur la base d'une certaine mécanisation du travail, en tout cas pour la pomme de terre. Et donc voilà, cette colonisation, elle se fait à partir des années 80, notamment du fait du changement des variétés. À partir des années 80, c'est aussi le moment où sont petit à petit importé d'Europe, c'est une ironie complètement folle du sort, quoi, parce que la pomme de terre vient du Pérou et de la Bolivie, oui. Est partie en Europe. Et en fait, c'est les instituts de recherche agricoles européens qui ont mis au point des nouvelles variétés de pommes de terre. Ils ont réexporté en Bolivie. Et notamment, la variété emblématique en Bolivie, c'était la variété désirée.
Qu'on cultive toujours.
Qu'on cultive toujours, qui est...
Enfin, qu'on connaît ici.
Voilà. Et qui, là-bas, donne la désirée, c'était les grosses pommes de terre utilisées pour les frites, pour alimenter, justement, un marché complètement urbain. Et donc, à travers la coopération internationale, ces variétés qu'on appelle là-bas des variétés hollandaises, parce que c'était beaucoup la coopération hollandaise qui est venue les apporter, elles ont été diffusées petit à petit en Bolivie, et notamment dans les nouveaux bassins de production des basses terres, où les variétés natives, de toute façon, ne se seraient pas adaptées, mais où les variétés dites hollandaises se faisaient parfaitement au nouveau système de culture, mécanisé, avec intrants chimiques, Et voilà, plus du tout dans une logique vivrière. Et ces variétés nouvelles, elles ont aussi conquis les zones hautes, de la cordillère, de l'altiplano. Elles ont petit à petit, pas forcément remplacé...
Elles attiraient par le fait qu'elles étaient plus productives.
Voilà,
elles ont laissé envisager un gain meilleur.
Ben oui, elles sont plus productives, enfin elles ont des plus hauts rendements potentiels. Elles étaient plus cotées sur le marché. Parce qu'il y a eu quand même, du coup, il y a eu tout un phénomène de retournement des habitudes de consommation où en ville, on s'est mis à plus du tout consommer les variétés natives, mais à trouver que la désirée c'était beaucoup plus chic. Et puis les variétés natives, c'est des variétés qui sont adaptées à un système de culture manuel et donc aussi qui ne sont pas concurrentielles. Avec les variétés hollandaises. Et du coup, toutes les zones de production de patates pour un marché monétaire ont incorporé petit à petit ces variétés et qui ont petit à petit aussi diffusé, même dans les habitudes de consommation des paysans, même dans les coins les plus reculés. Alors, ils ont tous gardé dans les familles quelques variétés natives, pour certaines occasions, certaines fêtes, certains plats particuliers, mais du coup, à partir des années 80, il y a eu une érosion de la biodiversité cultivée, enfin, qui est sans précédent, quoi. Alors, il y a eu une chose astucieuse, quand même, qui a été faite par la coopération hollandaise, c'est qu'ils ont importé ces variétés hollandaises, donc c'est des pommes de terre, c'est celles qu'on connaît en France, ouais. Et qui sont très différentes physiquement des pommes de terre natives en Bolivie. Les pommes de terre, elles sont beaucoup plus colorées, en fait, on en a des violettes, on en a des jaunes pétants, on en a des rouges.
Et des bicolores aussi.
Voilà, avec des cercles concentriques.
Ouais, ouais. Des formes aussi, et dans les formes aussi.
Et les formes, elles sont beaucoup plus biscornues, on en a beaucoup d'allongées. Alors, il y a même une pomme de terre qui s'appelle la pomme de terre belle-mère, qui est complètement biscornue. Et en fait, l'histoire dit que c'est la pomme de terre, que quand une bru arrive dans une famille, chez les paysans, la belle-mère, toujours sympathique, lui file un énorme panier de ses patates en lui disant « Ma fille, tu vas les éplucher pour le dîner de ce soir. » c'est le défi, quoi. C'est pas mal, hein.
Ouais, c'est pas mal.
Et alors, ces variétés... Voilà, la coopération hollandaise, en fait, en Bolivie, elle a mis au point, quand même, une variété qui reprend des caractéristiques des variétés contemporaines, c'est-à-dire elle est plus productive, elle réagit bien aux engrais, elle peut décaler son cycle de production aussi pour faire des productions décalées, mais elle a quand même un peu du goût des variétés natives, et puis l'allure, elle est un peu plus creusée à certains endroits, les yeux sont plus marqués, elle est rosée blanche, et cette variété, la Huaycha, on l'appelle, en plus elle porte un nom local.
Local, oui.
Elle s'est répandue à une vitesse phénoménale partout, en fait. Plus que la Désirée, plus que la Ruby, plus que les variétés hollandaises. En fait, c'est la Huaycha qui a fait un raz-de-marée, parce qu'elle réunissait
les deux composantes, quoi. Et ça...
Voilà. C'était la pomme de terre du compromis, voilà. Et du coup, qui est maintenant consommée chez les paysans et en ville. Et alors, voilà, toute cette histoire sur les variétés pour dire qu'aujourd'hui, voilà, à partir des années 90, donc, les basses terres se mettent à devenir bassins de production de pommes de terre de consommation pour la ville. Ils ont des gros camions, des routes, ils peuvent apporter les pommes de terre en ville, tout ça c'est bien. Mais le problème c'est comment on reproduit les patates. Parce que la pomme de terre c'est une reproduction végétative, mais pour que la pomme de terre qui va servir de semence puisse donner à nouveau des pommes de terre, il faut qu'elle soit saine en particulier, il faut pas qu'elle soit dégénérée par des virus. Et les virus sont transmis par les insectes. Et dans les basses terres, on a déjà du mal à lutter contre toutes les maladies qui arrivent comme des mouches sur les patates. Mais en plus, lutter contre la dégénérescence par les virus, c'était impossible. Donc, c'est là que les terres d'altitude redeviennent hyper stratégiques. Parce que là-haut, au-dessus de 4000 mètres, on peut être sûr qu'il n'y a pas un seul insecte qui vole.
Ouais.
Donc, il n'y a pas de virus.
L'environnement est sain et approprié pour ça, quoi.
Voilà.
Pour la multiplication.
Et comme les terres, globalement, sont... Les terres aussi, les sols sont restés sains parce qu'ils n'ont pas été, à part dans les zones dont on a parlé, qui ont été vraiment touchées par le phénomène de commercialisation. Mais sinon, plus on va loin, plus on va dans des coins reculés, et plus le système des rotations traditionnelles, il est perpétué, il est protégé. Et plus aussi, on est assuré que les sols sont sains, et donc indemnes de maladies qui pourraient participer à la dégénérescence des tubercules. Et donc, depuis le début des années 2000, en fait, il y a eu tout un effort fait par les instituts de recherche agronomique locaux pour faire de ces zones reculées des zones de production de semences, en organisant petit à petit une filière semences dans la Bolivie, avec un système de certification des semences. En fait, jusque-là, il n'y avait pas de certification, en fait, ça passait par des échanges entre les gens. On savait, enfin tout le monde sait que la pomme de terre, il faut qu'elle remonte en altitude, donc on s'échangeait des semences, mais c'était des relations directes qui passaient entre les gens, voire sur des distances physiques hyper grandes, mais parce que les réseaux sociaux, ils sont hyper étendus en Bolivie, on est sur des sociétés anciennement de bergers transhumants, donc en fait qui couvrent des...
Malgré tout, très en lien, quoi, les uns avec les autres.
Nous, on était là justement à ce moment-là, où, dans les années où essayait de se mettre en place cette certification. Du coup, une organisation de la filière où la garantie du produit, elle passe plus par les relations des uns avec les autres, directes, ou des relations... ça peut être indirect aussi, mais c'est des relations de connaissances humaines. Mais la garantie, elle est assurée par un papier estampillé par le gouvernement ou un institut agronomique qui donne la garantie d'un produit. Et ça, bah, de même que l'éclatement des systèmes collectifs de rotation. Moi, à mes yeux, c'est quelque chose de grave parce que, en fait, on
s'est... Ça a mis de la distance, en fait, entre ces gens qui se communiquaient entre eux, ça les a individualisés dans leur pratique, en fait.
Ben, c'est ça. Voilà,
c'est que l'interlocuteur, c'est plus le voisin ou celui qui est à 3 mois de marche ou je ne sais quoi, mais c'est quelque part le représentant de l'industriel pour qui il travaille en multipliant les semences, quoi.
Voilà, c'est juste ça.
C'est une modification sociétale, en fait, profonde.
Et profond, quoi. Du coup, où les choses, elles vont passer par un rapport, passent par un rapport monétaire d'achat et de vente. Et clairement, ce qui est sûr, c'est que dans ces cas-là, il y en a qui ont du pouvoir parce qu'ils ont des moyens, et d'autres qui
en perdent.
Donc du coup, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Nous, on est partis il y a quelques années, donc je sais pas comment elle s'est organisée, cette filière, mais c'était déjà bien en place avant qu'on parte.
Et ça, c'était le gouvernement bolivien lui-même qui participait, enfin, ou c'est les entreprises européennes implantées là-bas qui mettaient en place ce système-là.
C'était le gouvernement bolivien, notamment en lien avec... en fait, c'est tout le système... Localement, il y avait donc un institut de recherche bolivien, ProINPA, donc, qui était spécialisé dans la pomme de terre et dans la plupart des cultures andines.
Si on fait un parallèle avec ici, du style l'INRA, quoi.
C'est ça, c'était l'INRA de là-bas.
C'est l'INRA de là-bas, oui.
Qui était lié au CIP, donc c'est le Centre International de la Pomme de Terre, qui est basé au Pérou. Il y a quelques grands centres internationaux comme ça sur les cultures stratégiques au niveau mondial. Donc il y en a un sur le riz, il y en a un sur
le maïs.
Et donc qui sont sous l'égide aussi de, notamment de la FAO. Mais qui sous couvert, en fait, voilà, sous couvert de protection de la biodiversité locale, sous couvert de protection des systèmes, en fait, mettent en place tous ces systèmes de garanties étatisées, parce que c'est leur grille de lecture aussi. C'est quand même des organismes qui voient les choses, enfin, qui voient le monde par le biais d'une, de l'écriture, de la normalisation et la certification écrite, et du coup, qui amène ce type de certification, de normalisation des filières, enfin, comment dire, en pensant que c'est le fait de d'organiser et d'écrire les choses qui va les protéger.
Voilà.
Moi, je serais plutôt d'avis de penser que c'est en dehors de l'écriture et de la normalisation que la biodiversité est protégée.
Mais oui, bien sûr. Oui. Mm. Ben, disons que c'est deux visions différentes, quoi.
C'est deux visions du monde complètement différentes,
en fait.
Parce
que là, en fait, ce dont tu parles, enfin, moi, c'est ce que ça me fait penser, c'est que c'est toute une organisation qui se met en place pour garantir des productions saines, mais en fin de compte, derrière, il y a des entreprises, des grosses entreprises qui, eux, cherchent à gagner de l'argent, quoi.
Mais oui, il y a une logique de profit.
Donc la logique de profit est plus prégnante que le fait de protéger réellement les producteurs et de préserver la biodiversité, parce qu'en fait, c'est pas ça leur leitmotiv pour eux.
Ben non, c'est pas ça l'objectif final.
Même si les chercheurs de type INRA et tout ça sont très sincères et dans ce qu'ils font, quoi, et ils le font avec toute sincérité, mais derrière, c'est pas forcément les meilleures choses qui sont produites. La preuve, tu disais, quoi, les variétés natives ont quasiment disparu, ou enfin, un grand nombre, en tout cas, sont à jamais perdus, quoi.
Ouais.
Et c'est à travers les certifications, les semences certifiées, eh bien, ne les ont pas remplacées, quoi. Bien au contraire, parce que ces semences certifiées, j'imagine que là, derrière, bah, tu le disais tout à l'heure, vont être produites en altitude pour venir dans les basses terres, qui elles sont conduites de façon conventionnelle, quoi, ce qu'on appelle ici conventionnelle, c'est-à-dire par le biais d'engrais et de produits de traitement contre les maladies et contre les parasites, quoi.
De toute façon, les variétés natives, elles sont exclues du système, quoi.
Voilà. Donc du coup, aujourd'hui...
Mais aujourd'hui, voilà, on a. Du coup, ça fait aussi qu'on c'est un système au niveau national qui est très diversifié, où perdurent des zones où se produit la pomme de terre de manière traditionnelle encore, avec des variétés natives, sur des systèmes de rotation collective encadrés au niveau du village. Et puis, mais à destination, c'est des pommes de terre qui restent souvent dans un circuit restreint. En fait, en culture vivrière ou pour des échanges avec les communautés voisines. Et ça, ce système-là, là, il a tendance à se réduire de plus en plus. Et à côté, se développe un système plus commercial avec des variétés nouvelles, commerciales, des échanges qui se font par le biais d'argent et plus des échanges des échanges non monétaires avec du transport sur des grandes distances, à la fois au niveau de la filière, parce que les semences donc sont produites en altitude, descendent dans les terres de vallée pour être multipliées, puis sont produites à grande échelle dans les basses terres et remontent dans toutes les villes de Bolivie pour être commercialisées, avec le développement d'une agriculture de plus en plus chimique, mécanisée,
industrielle,
et industrielle,
ce qu'on appelle l'agriculture industrielle. Donc en fait, j'imagine que les ravages sur la population paysanne sont du même ordre que ce que l'on connaît ici en France ou un peu partout dans le monde, quoi. Surtout dans les pays qui s'industrialisent, quoi.
Ben oui.
C'est-à-dire que le nombre en France, on est sur des surfaces agricoles assez importantes, mais le nombre de paysans ne cesse de baisser. Bien, on perd aussi des terres régulièrement, mais voilà. Donc j'imagine que là-bas le revers de la médaille, il est
là-dedans aussi.
Voilà, ouais.
Et effectivement, alors là où j'étais, c'était moins criant la déprise agricole, parce que paradoxalement, cette région hyper isolée, en fait, elle avait c'était son isolement lui avait permis de s'intégrer tardivement au marché et d'occuper une place assez particulière sur le marché de la pomme de terre. Et du coup, c'était une zone qui restait assez dynamique. En fait, Bah, le critère, c'est qu'on voyait des jeunes et qu'il y avait des écoles. Sur l'Altiplano, où le phénomène il est beaucoup plus ancien, la déprise agricole, elle a été particulièrement violente. Il y a plein d'endroits qui sont juste sinistrés, où l'école ouvre une fois par an pour la fête du village, mais où il n'y a plus d'enfants. En fait, tout le monde est parti en ville. Oui. Dans les hautes terres, dans les Andes, c'est très différent de la France, où en fait, on a une différenciation sociale aussi des agriculteurs. En Bolivie, le système traditionnel, enfin, le système social indien aussi, c'est un système très égalitaire qui nivelle les différences. Donc quand les gens partent et quittent la campagne pour aller en ville, le reste du village va occuper les terres. C'est très rare qu'un paysan prenne l'ascendant et rachète les terres des autres, parce qu'en fait les terres elles se vendent pas, elles s'achètent pas. Donc en fait les terres sont réparties entre tout le monde, et celui qui est parti il garde quand même ses droits d'accès à la terre.
C'est basé sur un droit d'usage en fait.
Voilà.
S'il
revient, il a le droit à ses parcelles comme avant.
Il a le droit à ses terres et...
Personne ne va le contester.
On va rechigner, le contester. Et...
Par contre, en fait, il y a eu... Sur tout l'Altiplano, il y a une déprise énorme. En fait,
j'imagine que ceux qui sont partis ne sont pas revenus. Si.
Eh bien, ils sont revenus.
Oui, ils reviennent.
Notamment, en fait, ils sont revenus dans toute la zone de production de quinoa, où la production de quinoa pour l'exportation... A rendu les terres de quinoa... Enfin, a rendu le... La quinoa est hyper attractive.
Il y avait un intérêt, voilà.
Et des gens sont revenus de la ville pour mettre en culture toutes ces terres auxquelles ils avaient le droit par droit d'usage, pour les mettre en culture en quinoa, avec en plus des moyens financiers autres, puisqu'ils s'étaient enrichis en ville, en faisant du commerce, tout ça. Donc certains sont revenus carrément avec des tracteurs et ont mis en culture des zones traditionnellement réservées à l'élevage pour faire de la quinoa pour l'export, quoi. Donc,
là, on rentre dans un autre problème. Bon, bref, on est quand même sur un schéma mécanique... de détérioration de tout un tissu social, de tout un maillage de sociétés qui vivent d'une certaine manière. En fait, on est sur quelque part un peu d'irréversibilité, quoi. Parce que les paysans qui reviennent pour cultiver du quinoa, c'est parce qu'il y a un intérêt économique.
C'est plus parce que c'est chez eux.
Ouais. Et voilà. C'est plus parce que c'est chez eux. Et puis c'est plus parce qu'il y a la nécessité de réseauter humainement ou d'être dans les pratiques qui sont ancestrales en fait.
Oui, voilà, le collectif
en fait.
Moi
c'est ça qui me choque, quoi. Qui me marque surtout, c'est on amène de la modernité, enfin ce que l'on appelle de la modernité, et en fait derrière c'est une modernité qui est quasi irréversible, quoi, puisque une fois implantée, le retour vers les bonnes pratiques et la raison d'être,
ouais,
on peut plus se mettre en place, quoi.
Voilà, et en fait, cette modernité, elle a permis...
D'un côté, elle permet sans doute aux gens de vivre mieux, mais quelque part, d'être comme sous le temps des conquistadors, sous une espèce de forme d'esclavagisme, en fait.
Mais oui,
l'esclavagisme
parce que... économique.
Économique, ouais.
Ouais, maintenant, du coup, le collectif, c'est plus une nécessité. Et en fait, c'est là on réalise que le collectif, c'est pas juste une nécessité de survie, c'est aussi tout ce qui tient la société, en fait.
Oui, bien sûr, ouais.
Et pas seulement en termes de production agricole. Et effectivement, là, c'est ce qui se passe, c'est un délitement complet des réseaux humains, des liens d'entraide, d'échange, qui font que la production agricole, elle se faisait, mais aussi que le reste tenait, quoi.
Bah, écoute, Margot, merci pour ces explications, ce temps passé... C'est chouette, et puis ça complète l'histoire de la pomme de terre que nous avait présenté Silver dans une précédente émission. Merci.
Eh bien, merci à toi, Jérôme.
Interview.